cadre du Forum social mondial 2008 se tenait à l'Embobineuse une soirée autour de la France-Afrique, organisée par l'association de vidéo Primitivi et le collectif des médias libres de PACA, mais pas que. L'occasion pour la grenouille de se pencher sur la France-Afrique avec Camille de Vitry, la réalisatrice du film Le Prix de l'Or, Emmanuel Semanou de l'association Survie et pour commencer, Nicolas Burlot de Primitivi.
Sur les affiches, on a marqué soirée organisée par Primitivi et le collectif des médias libres de PACA et pas que. C'est un collectif qui a vu le jour il y a quelques mois, enfin qui est en train de se structurer, de se fédérer sur Marseille. Et donc du coup, nous, montrer des films sur des thématiques politiques dont on parle peu, ça nous intéresse. Après, soutenir des réalisateurs qui font des films sans passer par la télé ou par les standards commerciaux, ça nous intéresse aussi. Et s'inquiéter de comment ces films peuvent être vus, diffusés, ça nous intéresse aussi. Donc cette soirée, elle sera aussi diffusée sur Free TV Perso, qui est un service que Free a ouvert il n'y a pas longtemps, et qui permet d'émettre en direct. Et donc ça sera retransmis sur le canal 99 de la Freebox toute la soirée, c'est-à-dire les interventions et aussi les films. Bon, alors Free, c'est pas des anges, hein. C'est une société commerciale aussi, mais par contre, c'est des services qui fonctionnent très bien. Donc les films, il y aura deux films de Camille de Vitry. C'est une réalisatrice qui fait des films autoproduits, et ça, pour nous, c'est super important. Donc il y aura un petit film fait par Survie Rhône il y a quelques années, et qui est une bonne introduction à la France-Afrique en général. On verra aussi un petit bout du DVD qui est sorti sur Elf la pompe Afrique, le spectacle de Nicolas Lambert, donc qui a assisté à toutes les audiences du procès Elf et qui a décidé d'en faire un spectacle. Voilà, et puis donc je continue sur ma liste parce que il y a donc les gens de Survie qui nous feront l'honneur d'être présents et de venir nous raconter un peu le travail qu'ils mènent depuis de longues années. Et puis il y aura aussi des gens qui viendront nous présenter une autre façon de militer en Afrique, en particulier des gens qui nous parleront de TV Nomade, qui est un collectif qui pratique la vidéo, mais comme outil d'émancipation à Bamako, au Mali, et puis d'un processus plus vaste de création de centres d'écoute communautaire à Bamako, qui servent un peu à essayer de se réapproprier une parole. Enfin, nous, on se sent super proche de ces deux démarches-là. C'est extrêmement indépendant et donc ils font un vrai travail de militants de terrain et ils ont un vrai discours aussi sur le dépouillement, pas seulement matériel mais aussi humain des pays riches en Afrique, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont beaucoup sur une démarche en disant aux militants, aux intellectuels, aux gens, restez en Afrique et agissez en Afrique, il y a un travail à faire ici. Qu'il faut absolument qu'on fasse nous-mêmes sans attendre que l'État ou l'aide internationale vienne nous aider à la faire, quoi.
Camille de Vitry, tu es la réalisatrice du film documentaire Le Prix de l'Or, un film en deux parties, dont la deuxième partie, a priori, va être projetée ce samedi à l'Embobineuse, dans le cadre de la soirée France-Afrique. Tu peux nous présenter un peu ce film ?
C'est un film qui relate les conditions de travail des ouvriers dans la gigantesque mine d'or de Sadiola. À tous les postes de l'exploitation, depuis l'extraction du minerai lui-même, c'est-à-dire dans des camions énormes qui transportent 100-120 tonnes de minerai et qui étaient des véhicules vétustes à l'époque. Je dis bien parce qu'il y a plusieurs époques. Il y a l'époque où j'ai commencé à tourner le film et l'époque où ils ont commencé à faire un peu gaffe, quoi. Donc 2002, je commence à tourner, on m'interdit l'accès à l'intérieur de l'usine. Mais déjà, on m'a amené à l'intérieur de la carrière qu'on présente aux journalistes et j'ai voulu descendre au fond pour voir. Déjà, j'ai des images qui font pièce au cabinet d'avocats parce qu'on voit ces ouvriers qui travaillent sans masque. dans des teneurs en poussière hallucinantes et dont plusieurs sont restés invalides. D'autre part, il s'avère que ces ouvriers conduisaient également des véhicules vétustes. Ce n'est plus le cas, j'insiste, je parle au passé, depuis les coûts de l'exploitation ont explosé. Ni surtout l'intérieur du centre de traitement où le minerai est traité, il faut quand même sortir 3 grammes d'or par tonne de minerai brut. Donc ça passe dans toutes sortes de baignades, de produits chimiques, de rouleaux, de machines à laver. Le minerai, une fois extrait, c'est quelques 3 grammes d'or, il est traité au cyanure. Et ces ouvriers donc se respiraient du cyanure à longueur de temps, et etc., etc. Enfin bref, et rejetés en boue toxique, 5 millions de tonnes par an, pour être précise, et dans un bassin de boue toxique, un lac artificiel, un gigantesque lac artificiel qui s'agrandit de jour en jour.
Il y a du gaz qui sort à l'usine, ils n'ont pas fait de protection pour ça. Il y a toujours des maladies dans l'usine là, mais personne n'a le droit.
Ouais, on peut pas, on est comme un peu terrorisé ici. On a besoin du boulot, on a du boulot. Mais si tu t'hasardes à dire de certains trucs là, tu risques de perdre ton boulot. Donc on est obligé de se taire, d'accepter ce qui se passe. Puisque c'est les blancs qui nous coiffent ici. Ils exigent beaucoup de choses. Et si tu ne fais pas leur affaire, tant pis pour toi, ils te virent.
C'est un réseau de mines de plus prédatrices les unes que les autres qui s'étend sur le Mali et sur l'Afrique dans des conditions très effrayantes. Sur Sadiola, il y a eu une réelle amélioration des conditions de sécurité des travailleurs, très très réelle. Hein. En un an, les accidents du travail ont diminué de 2/3, brutalement. Je ne veux pas me vanter, mais je pense que d'avoir une caméra dans le cul, ça devait vraiment les gêner. Ce minerai en contact avec l'air et l'eau, les éléments chimiques se solubilisent. Une fois qu'ils sont complètement solubilisés, s'infiltrent jusqu'aux nappes phréatiques. Voilà qui promet des belles perspectives pour les décennies à venir dans la région. Ça, c'est une vraie damnation pour les populations locales, quoi, s'ils font rien.
Qui exploite cette mine ?
Alors, c'est un poème. Anglo-American Corporation, qui détient la majorité des parts à 38%, avec I Am Gold, rien que le nom, je suis l'or, I Am Gold, une Canadienne qui s'est chargée de découvrir, entre guillemets, le site qui était connu depuis la nuit des temps. C'était le site légendaire de la mine d'or du Bambouk. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais l'or du Bambouk, quand le roi Kankan Moussa, au XIIIe siècle, fait le pèlerinage à la Mecque, autour de lui, il a tellement répandu d'or que le cours de l'or a chuté mondialement pendant des décennies encore, quoi. C'est un site complètement légendaire. Donc, il aurait été découvert par I Am Gold, qui s'est accoquiné avec Anglo Gold pour exploiter le site. Donc, ils se sont partagés les parts, 38% chacun. Et puis, 18% pour l'État malien, ne l'oublions pas quand même. Et 6% pour la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Et surtout, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le fait que la Banque mondiale soit actionnaire. Naïvement, j'avais toujours cru que cette institution était là pour aider le tiers-monde à se développer. Mais peu à peu, au cours de cette aventure, j'ai compris que le rôle de la Banque mondiale est de maintenir le tiers-monde en état de sous-développement, en état de producteur de matières premières, de l'or, des noirs, parce qu'ils sont costauds en plus, les mecs, enfin, franchement, hein, et résistants. Hein. S'ils sont décédés par dizaines, par centaines peut-être, à Sadiola, c'est qu'ils ont travaillé vraiment dans des conditions extrêmement limite, hallucinante. Les teneurs en poussière au début de l'exploitation, en phase de construction du site, étaient de 20 fois supérieures aux normes de l'OMS, acceptables, tolérables pour la vie humaine, pour l'Organisme mondial de la santé. Et de même pour les taux de cyanure dans les nappes phréatiques des villages avoisinants, etc., etc., etc. C'est le tiers-monde, on s'en fout. Les 6% de la Banque mondiale m'ont descendu à ça. Dieu là, je voulais voir à quoi pouvait ressembler une gigantesque mine d'or dans une des régions les plus pauvres du monde et dont la Banque mondiale est actionnaire en fonds propres. Ou sale, hein, ça dépend comment on se situe, quoi.
Afrique esclavagisée, colonisée, matérialisée, dévalisée.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les poulevins de Sirvin, les crédits des débits, aïe aïe.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Afrique m'a dirigé, tyrannisé, manipulé, dévalué.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
La solde des mercenaires et les armes des tortionnaires. Des milliards de francs volés à des pays souffrants. Les coups de fouet, doux fouet, les sales sous des sassous, ya ya ya.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Après 400 ans d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers d'entreprises qui pillent.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Les complots du FMI et les blagues de la Banque mondiale, des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs, les fonds comptes de compte et les sales sous de sa soupe.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups de fouet, doux fouet, les bombos de bongo, ya ya ya.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. 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 Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Est-ce que l'Afrique doit encore?
Non.
Est-ce que Africa doit encore?
Non. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. 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 Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Et là, tu vas projeter une version du film inédite. Tu veux toujours en parler ?
Il y a un scoop.
Non, c'est pas il y a un scoop, mais il y a un nouveau volet d'accusation.
Oui, y a, exactement, ouais. C'est-à-dire, outre ces conditions de etc., des prédatrices aussi bien des hommes que de la nature, que des populations alentours, etc. Le vol par toutes les voies possibles et imaginables, le vol légal par toutes les contraintes de la Banque mondiale, du FMI, etc. Le pillage organisé, le pillage légal, au-delà, se passe, je pense, pouvoir affirmer, même tranquillement, je l'affirme, que les deux tiers au bas mot de la production sont détournés sur le site. Purement et simplement, pourquoi se gêner ? Sur place, Sadiola est une véritable enclave dans le territoire malien, avec de véritables postes frontières. À l'intérieur de cette enclave minière, les forces de l'ordre sont toutes acquises à la société d'exploitation. Les seules forces de l'ordre sont la gendarmerie et la douane. Tous circulant en véhicule CEMOS, etc.
Tu peux rappeler ce que c'est la CEMOS ?
Pardon, la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola. Donc pourquoi se gêner ? La CEMOS affecte 1 million de dollars par an à des vols entre Sadiola et Bamako ou ailleurs. Ce sont des petits avions qui sillonnent le Sahel, qui transportent, on peut en avoir une idée dans le cauchemar de Darwin par exemple. Mais sur Sadiola, je ne sais pas ce qu'ils amènent dans un sens, mais au départ je suis à peu près certaine qu'ils transportent 30, 35, 40 tonnes d'or par an. J'ai tout un faisceau de données en main qui sera publié cette fois, enfin oui, publié, rendu public dans ce film, La folie des hommes, mais où ne seront montrés que deux témoignages, mais dans le livre que je viens de finir. il n'est pas exactement... Disons que j'ai écrit le point final, mais il reste à retravailler encore, mais il est fait, quoi. Le vol, qui est le pendant de L'or africain, publié par Gilles Labarthe, aux éditions Agone. En fait, le vol, mon livre, va raconter d'abord mon épopée, et puis donner la parole à ces ouvriers, relater des témoignages directs, accumuler ce faisceau concordant, convergent d'indices de plus en plus implacable, quoi, jusqu'aux rotations. Oui, le plus simple, c'est les rotations de camions, mais surtout, ça, j'en parle pas encore. Vous saurez la suite en lisant le vol.
Et en fait, un livre, parce que t'as pas pu prendre toutes les images qu'il fallait.
Absolument. De nombreuses images ont été verrouillées sur le site même. Le chef de la sécurité de l'usine qui sort de nulle part, tu savais même pas qui te voyait, qui te dit s'il vous plaît, effacez ces images. On avait simplement filmé un camion. Pourquoi effacer les images de ce camion ? Certes, il rentrait dans la société d'exploitation, mais quoi ? Et alors ? Donc, de sorte que je n'ai eu de cesse que de savoir d'où venait ce camion et pourquoi on m'a fait effacer ces images. C'est une toute autre raison. À Yatela, qui est une exploitation annexe qui se situe à 15 km de Sadiola, se trouve également des bassins de décantation de boue cyanurée. Mais le traitement final du minerai, c'est-à-dire les grosses machines à laver, tout ça, ça se passe à Sadiola même, à l'usine de la CEMOS. Donc, qu'est-ce qu'on transporte de ces camions ? Des boues extrêmement chargées en or, après plusieurs stades de décantation, et marinées au cyanure. Donc ce camion transporte du cyanure sous forme liquide qui va traverser 3-4 villages avant d'arriver jusqu'à l'usine de Sadiola. C'est strictement interdit. Et je crois que c'est pour ça qu'on m'a fait effacer ces images. Voilà, mais surtout ce que j'ai pas pu filmer, c'est, j'en parle quand même, le vol. Un jour, avec Sambala Makalou, le premier adjoint au maire de la commune de Sadiola, on enquête sur la commune de Yatela, justement, où les quatre fausses couches atteignent des teneurs hallucinantes. Aujourd'hui, on sait que ces teneurs, les 4/5 des femmes avortent depuis le début de l'exploitation de Yatela. Et il nous faut dénoncer, on décide de sauter dans le premier vol qui part de Sadiola pour rejoindre le Forum des Peuples qui va ouvrir quelques jours plus tard à Sibi, le deuxième Forum des Peuples, et où nous a invité le secrétaire à l'époque. Il nous a invité à y intervenir, alors si ce n'est pas l'occasion de lâcher publiquement. Et donc on saute dans le premier vol qui part de Sadiola. Sambala appelle la CEMOS et réserve tranquillement deux places. Oui, c'est la CEMOS consacrant 1 million de dollars par an à ces vols qui sont quotidiens. Et la gratuité et la priorité accordée aux membres de la commune sur ces vols fait partie des sucres distribués par la CEMOS. De là, elle anesthésie les membres de la commune. Derrière la commune, les populations locales, qui de toute façon ne parlent pas ni français, ni encore moins anglais. Donc comment irait-elle se plaindre auprès des exploitants miniers directement? Impossible. Donc, premier verrouillage, la commune. Donc cette priorité, elle est vraiment importante. Mais là, on nous refuse deux places au motif qu'il n'y a plus qu'une place à bord. Sambala argumente fermement, nous sommes deux personnalités de la commune, nous devons embarquer, etc. Finalement, on nous dégage une place. Et donc, on arrive et à bord, le vol est à moitié vide. Tous les bagages sont embarqués en cabine. Question, qu'y a-t-il dans la soute? Alors, à moins qu'on débarque, qu'on décolle d'une gigantesque fabrique de, je sais pas, de nougat ou quelque chose, je vois pas ce qu'il y aurait dans la soute, quoi. Je vois pas pourquoi on nous dirait que le vol est plein, alors que on était quoi, 7 ou 8 passagers dans l'avion. On nous a pesé nous-mêmes ainsi que nos bagages. Enfin, ça a été tout un faisceau. Et puis qui y avait autour de nous, ben, en un mot, des barbouzes, quoi. Des mercenaires, ils sont sud-africains, ils sont employés par la société Defense Systems Limited, qui depuis quelques années s'est regroupée avec Armor Holdings Incorporated américaine, à laquelle c'est la façade honorable, font appel les grandes ONG, Care International, tout ça. Care, au passage, qui a vu le film et qui a toujours refusé d'intervenir sur le site parce que c'est trop chaud, la patate est trop chaude, quoi. Comme ils ont dit eux-mêmes, hein. La patate est trop chaude, c'est leur propre expression, quoi. Donc voilà, après on atterrit à Bamako et le vol poursuit sur Accra. Accra, capitale du Ghana, où AngloGold détient également une mine d'or. Accra qui est, selon François-Xavier Verschave, l'ancien président de survie, qui est une plaque tournante de recyclage de leur salle. Bon, là, on a plus qu'un faisceau convergent d'indices, quoi. Ça commence à se cumuler, quoi. Disons un faisceau cumulé d'indices, quoi. Voilà.
Et le maire, alors, comment tu expliques son implication et son soutien pour toi? Il risque gros, lui, non?
Absolument, mais d'abord, ce n'est pas le maire, c'est l'adjoint au maire, le premier adjoint. Le maire est en excellent rapport avec la CEMOS, et son adjoint, par contre, est un peu plus libre. Et puis surtout, il y a l'association des ressortissants de Sadiola en France. Parce que les migrants, très souvent, se constituent en association en France pour cotiser et faire vivre leur village. Donc, ils ont un poids certain de détermination par rapport au village. Et donc, j'ai été très vivement recommandée par l'association des ressortissants de Saint-Dulot en France. Et surtout, ce sont les rares personnes cultivées du village qui s'expatrient en France, parce qu'ils parlent français déjà, tout simplement. Point barre. Si on ne les avait pas colonisés, ils ne parleraient pas français. Simple. Monsieur Sarkozy, soit dit en passant. Et donc, ce sont eux qui ont été les premiers conscients du risque sanitaire que courait le village, parce que tout le monde était un peu endormi par les petits kilos de sucre, les billets d'avion, les petites faveurs de la CEMOS. Et donc ces femmes qui faisaient des fausses couches, c'est une honte absolue de faire des fausses couches en Afrique. On ne le dit pas, on se tait, on se cache. Et donc Sambala a attrapé son courage. Aussi, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Sambala, il est malinqué, il est fort du poids de ses ancêtres ancrés dans la terre de Sadiola. Mais le village de Sadiola, l'ancien village, a été déplacé comme un pion pour livrer le site à l'exploitation minière. Donc les ancêtres, ils sont où? Aujourd'hui, Sambala, il m'a posé la question avec la voix étreinte d'émotion, quoi. Et j'ai jamais osé lui répondre. Ils étaient probablement pulvérisés dans le bassin de boue mariné au cyanure.
La façon dont ils exploitent la terre et ils nous exploitent là, nous ne sommes pas d'accord. Tu vois? Donc s'ils ne font pas attention, le Mali a tendance c'est pas à poursuivre des traces comme des pays comme des Rwanda, des trucs. Bon, ça peut, on ne le souhaite pas. On ne peut plus être colonisé encore. Ça, non.
À cause de notre sous-sol, on ne peut plus être colonisé.
Ce que j'ai à dire, c'est multinational. Ceux qui exploitent notre or, faites attention. Vous êtes en train de créer des démons qui demain vont vous dévorer. Parce que quand les peuples seront poussés à la fin, Dieu ne descendra pas pour résoudre le problème. Ils le résoudront par la voie de la violence.
Un jour viendra, tous ces expatriés, avant qu'ils envoient nos propres militaires à lutter contre nous pour les sauver, on va les tuer. Ça, c'est très clair. Parce qu'un ouvrier, c'est pas bon de laisser mettre un ouvrier en colère. Parce que à cause des bruits des moteurs, des poisons qu'il respire, ça le rend un peu fou, je te dis. Parce qu'en fin de compte, quand on en a marre, ça va mal tourner.
Des exploitations minières, tout d'un coup, il y a des conflits qui éclatent. On ramène toujours ça aux conflits ethniques.
Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, des bases d'implantation militaire dans cette région d'Afrique de l'Ouest pour en fait la recolonisation de l'Afrique.
C'est une présence militaire pour pouvoir assurer une domination complète sur les ressources minières parce que ça se passe toujours avec des problèmes.
Là, ils vont gagner. Parce qu'ils vont prendre l'avion et partir et nous, on va se tuer ici à cause de notre sous-sol.
Et le cours de l'or s'est rarement aussi bien porté.
Le directeur financier, dans un grand élan de transparence, m'a fourni beaucoup de documents d'ailleurs, mais c'est leur ruse. Ces multinationales, la première chose qu'ils font, c'est de te noyer sous une masse de chiffres impressionnante. Gilles Labarthe l'explique très bien dans son bouquin. À chaque fois qu'il sollicitait une boîte, il avait des kilomètres de chiffres. Mais sauf que je l'ai emmené à François-Xavier Verschaff, ce document qui relatait tous les flux financiers depuis l'ouverture de l'exploitation. Et François, il l'a lu, mais comme un livre de blagues, quoi. Il rigolait. Il me dit, là, regarde. Par exemple, c'est lui qui m'a fait voir le million de dollars consacré à ces vols privés pour la CEMOS. C'est lui qui m'a fait voir également les payes hallucinantes de consultants miniers. Qui sont ces consultants? On ne sait pas, mais ils ont des salaires, des rémunérations incroyables, quoi. Oui, ils m'ont communiqué beaucoup d'informations. Je suis arrivée avec une gentille casquette. J'avais pondu un scénario de circonstances, Sadiola, un développement exemplaire. Mais c'est vrai. Mais bon, mais c'est de la folie, c'est de la folie, quoi. C'est nous qui payons, face à nous, contribuables, c'est notre argent. C'est en notre nom, au nom de l'aide publique au développement, c'est trop fort. C'est une entourloupe magnifique. Et on finance la prédation absolue de l'Afrique, absolue. Des siècles d'esclavagisme et de colonisation et de néocolonialisme actuel qui est probablement peut-être la plus féroce de toutes ces prédations, la plus impitoyable. Donc on vidait ces pays de toutes leurs ressources, et aujourd'hui même de leurs matières premières humaines. Le Mali produit l'or le moins cher du monde, à quel prix ? J'ai eu l'intuition en 2002 de me trouver en position de préscience, qu'il allait se passer quelque chose de terrible si nous n'intervenions pas tout de suite. Et Gilles Labarthe établit également dans son livre
dans l'or africain, l'analogie avec le cas du Congo. Ça m'a énormément effrayée de constater les similitudes totales entre le cas du Mali, plutôt le cas de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, et le cas de l'Afrique des Grands Lacs avant la guerre civile qui a fait 4 millions de morts. Les mêmes exploitants miniers, les mêmes conditions de financement, montage financier encouragé, incité par la Banque mondiale, aussi bien au plan strictement financier, les 2/3 du financement de Sadiola par exemple, que sur le plan légal. Le Mali assouplit ses lois jusqu'à se faire dépouiller légalement à 80% des dividendes miniers, c'est trop fort. Le Mali peut récupérer au maximum 20% de ses dividendes miniers. Alors putain, ils sont chez eux quand même. On ne peut pas imaginer ça en France. Enfin bref, j'en étais là, cette sale intuition qu'il allait se passer la même chose. Et je n'ai fait que le vérifier. Ici, on génocide tranquillement les populations locales et beaucoup plus rapidement. Une guerre civile là-dessus, plus une trace de cyanure. Et n'en parlons plus. On n'a jamais entendu parler de pollution au cyanure au Congo, mais jamais. Alors que c'est le même type de minerai traité selon le même processus de traitement par les mêmes compagnies minières, le même montage financier, les mêmes compagnies de mercenaires qui ont été d'ailleurs par la suite pointées par le gouvernement anglais en personne, parce que Defence Systems Limited, c'était très anglais, pour être intervenu trop directement dans cette guerre civile des Grands Lacs, etc., etc. Donc on est exactement dans le même scénario de cauchemar.
Dans les 30 dernières années, la misère n'a cessé d'augmenter. En Asie du Sud, en Amérique latine et surtout en Afrique. En français, on y revient par l'explosion démographique. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants, sachant que les propos des spécialistes du développement sont alarmants. Si ces prévisions se réalisent, la misère, la famine vont prendre l'allure d'un cataclysme. L'Europe occidentale, les États-Unis, le Canada et l'Australie contrôlent 80% des ressources vitales pour la survie de l'homme. Parallèlement, 100 millions d'Africains meurent de faim au sud du globe. Enfin, les lois du marché et l'effondrement des cours des matières premières produites au sud expliquent l'endettement des pays du tiers monde. Une seconde. Et je reprends. En hommage à la mort chaque année, des centaines de milliers d'enfants. Du seul fait de la dette et des politiques d'ajustement préconisées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et d'un avec le stade occidental. C'est bien d'aider le Sud dans la Somalie ou le peuple kurde, mais rien ne changera tant qu'il y aura des intérêts économiques dans cette guerre dans le Sud. C'est un avertissement, c'est la guerre. L'Occident pratique un génocide à travers la misère. Sur la planète Terre, les enfants sont pas famés, les mères font la prière. Sur les deux hémisphères, mais où est donc la paix? La colonne de la paix s'est envolée. Pendant que certains piquent une tête dans leur piscine, des enfants bien frais en Afrique dégueulent de la bile. Nous sommes conscients que le blocus économique sur Cuba pousse des mères à donner à manger à leurs enfants du rat. Et l'homme qui gouverne sourit de toutes ses dents, et l'enfant qui se meurt se vide de tout son sang. Alors, comme ça c'est la guerre, nord sud du nord, l'ombre chante des hémisphères, et la terre est la terre. Sa population est contrôlée par une élite qui détient le monopole, mais pas celui de nos esprits, car le petit enfant blanc de l'Occident s'instruit. Le vide
virus tue. Mais parfois il est nécessaire de s'introduire dans les anticorps pour stopper cette guerre.
La France a organisé vraiment une guerre vraiment, qui a fait des milliers de morts et au Congo-Brazzaville pour réinstaller Sassou Nguesso au pouvoir. Et dans un silence absolu au niveau national en France ici. Et c'est là où François-Xavier Verchave, survit, a sorti ce livre-là justement, qui est Noir Silence.
Plusieurs chefs d'État africains ont fait un procès à François-Xavier Verchave au moment de la sortie de son livre Noir Silence, parce qu'il l'accusait de les avoir traités de dictateurs. Alors, qui étaient ces dictateurs? Enfin non, ces chefs d'État donc traités de dictateurs.
Ces dictateurs-là, ces chefs d'État, c'est Sassou Nguesso et de Congo-Brazzaville, Idriss Déby du Tchad, dont on entend toujours au palais en ce moment, et puis Omar Bongo, qui est vraiment l'épicentre même de la mafia afrique, quoi, et que quand on voit le procès ELF, etc., là où se situe vraiment excusez-moi du terme, mais tout ce qu'on appelle saloperie de politique de la France-Afrique, le Gabon, ELF Gabon, et puis qui a des ramifications avec le Front National, etc., avec tous les partis politiques en France. Mais c'est-à-dire, le procès, ce n'est pas outrage, ce n'est pas seulement diffamation, mais le thème, ils ont été cherchés un article de loi qui datait de 1700 quelques, c'est leur ami Chirac, leur papa Chirac, qui leur a trouvé le texte. Offense à chef d'État, parce que ce que vous avez dit, c'est vrai, mais présentement, vous m'avez offensé là, parce que ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais vous n'avez pas le dit. Vous m'avez blessé le cœur. Puis finalement, François Xavier a remporté quand même cette victoire, quoi. C'est très important pour Survie.
Et donc, alors Emmanuel, c'est Manou, je ne t'ai pas présenté. Toi, tu fais partie de Survie à Marseille, Bouches-du-Rhône. Donc, ces chefs d'État, ils sont toujours là. Et est-ce que ce n'est pas encore aujourd'hui les amis de notre président Nicolas Sarkozy?
Mais plus que jamais. Vous avez vu que après les élections, le petit Nicolas Sarkozy a fait déjà un voyage là-bas à Libreville, parce que la France-Afrique, c'est l'épicentre même de où il y a l'argent coule à flot, on soutient les partis politiques, etc. Et que la situation n'a vraiment pas changé. Hein, plus que ce qui est très inquiétant, justement, ces gens-là, ils sont des amis de notre président actuel. C'est ça qui est grave. Le Bouygues, le Bolloré, et quand le président s'en va avec Bolloré, où est-ce que Bolloré fait sa fortune? Mais c'est en Afrique. Quand le président voyage dans un avion, dans ses avions, dans les yachts de ces gens-là, qui met l'économie de l'Afrique à genoux, ça pose vraiment un vrai problème.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus clairement, parce qu'on ne sait pas trop ce que Bolloré fait en Afrique?
Ben Bolloré, mais c'est-à-dire, il est propriétaire de tout ce qui... C'est le type qui fait tout. Il fait business en tout genre. C'est-à-dire, il contrôle les ports, il contrôle les plantations de café, de cacao, de bananes, des transports, mais presque tous les transports, les frettes maritimes, etc. Mais il est impliqué dans l'économie, quoi, de là-bas, quoi.
Mais où ça exactement et au nom de quelles entreprises
Que ce soit en Côte d'Ivoire, il contrôle une grande partie du port d'Abidjan. Et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire tout dernièrement, tout simplement, on n'a pas dit. Il y a aussi le contrôle de Bolloré qui arrivait à sa fin et que Gbagbo voulait renégocier, voulait rechanger les opérateurs, tout ça, mais ça fait aussi partie d'une partie de la crise ivoirienne. Et jusqu'à ce que Gbagbo était obligé de céder, et puis non seulement il y a le Gabon, il y a le Togo, il n'y a que Bolloré a mordu la poussière, c'est au Sénégal, et c'est tout dernièrement que c'est le... Sinon, mais c'est Bolloré qui contrôle presque tous les ports dans beaucoup de pays d'Afrique.
Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal?
Le type qui est là-bas, Ouad, il a cédé le port à Dubaï. Je ne sais pas, il doit avoir une amitié particulière avec les pays musulmans, ils ont quand même une grande influence au Sénégal, c'est-à-dire les Tidjans et puis les Mourides. Il y a une grande amitié peut-être. Et curieusement, c'est Dubaï qui a remporté le port du Sénégal. Mais... vous savez, hein, la France-Afrique, quand ils se retirent, c'est pour mieux ressauter. Alors,
Oui, en même temps, on voit aussi que la France, ce n'est pas la seule à piller l'Afrique. Les pays du Golfe ont une forte influence, la Chine aussi, peut-être un peu moins dans les anciennes colonies françaises, mais beaucoup en Afrique de l'Est, en Afrique australe aussi.
Oui, mais c'est-à-dire il faut quand même faire attention au problème de la Chine, parce qu'on agite maintenant la Chine, parce que la Chine pille. C'est maintenant que la Chine vient sur le continent africain en tant que quelqu'un qui cherche aussi son économie, qui cherche aussi ses intérêts. Mais sinon, la Chine ne met pas des dictateurs en place en Afrique. La Chine n'a pas de bases militaires en Afrique. C'est maintenant que la Chine a besoin de matières premières pour son développement.
Oui, mais la Chine n'a pas de base militaire. Mais ça l'empêche pas de prendre ses intérêts dans des pays au Soudan, par exemple, où elle a énormément, c'est elle qui contrôle beaucoup de puits de pétrole. Voilà, là où Omar Béchir est au pouvoir, c'est aussi un dictateur. Il y a aussi un gros conflit au Soudan. Elle ferme les yeux. Et...
oui, je suis entièrement d'accord. C'est vrai, parce que mais celui qui nous a mis dans cette situation, que les Français, quand ils ont vu le grand papa impérialiste, Girard Dégo, qui dit un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et quand les... ah oui, c'est vrai, c'est De Gaulle, mais quand les Français disent que c'est un grand homme, c'est un petit homme pour nous, les Africains, c'est celui qui nous a mis dans cette situation. Et voilà, c'est lui qui a dit ça. Et c'est vrai que les Chinois, mais quand ils ont besoin de matières premières, ils soutiennent les dictateurs, c'est vrai. Mais on peut les appeler, on peut les obliger à rentrer dans l'ordre. Et même, vous savez, et même la France a tout le temps soutenu le Soudan. Hein. Souvenez-vous, la guerre du Sud, les chrétiens animistes, John Garand, la France a tout le temps soutenu ce système-là.
C'était pour Carlos, mais en même temps, elle faisait ce qu'elle a fait beaucoup en Afrique, c'est-à-dire qu'officiellement, elle soutenait Béchir et puis elle donnait des armes à John Garand.
Oui, mais elle a toujours fait double jeu. Elle a tout le temps, je me rappelle, avec le système de contrôle, de satellites, tout ça, mais la France vendait livrer ces informations au Mabéchir, au dictateur, pour pouvoir casser l'effort de résistance du Sud-Soudan. C'était tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais, avec le truc de Carlos, ce n'est que avec Pascua, on a livré au Carlos, ce n'est que un petit cadeau.
Là, il faut peut-être juste rappeler pour les auditeurs, c'est quoi l'histoire de Carlos et Pascua?
Mais il se trouve que il y a Carlos qui était au Soudan, qui a commis entre guillemets qui était condamné par les tribunaux français, qui s'est caché là-bas au Soudan, et que la France aimerait le récupérer. Mais nous, ça nous a fait quand même rire, parce que tout le monde savait que Carlos, tout le monde le voyait. Il semblerait qu'il y allait même dans les fêtes à l'ambassade de France, et tout le monde le connaissait. Et comme par hasard, oui, les élections, une période, on a essayé de mousser le peuple français. Et puis, on le voyait dans le club des diplomates. Il jouait aux boules, il jouait à la belote avec les Français pendant des années. Tout le monde le savait, tout le monde le connaissait. Et puis, curieusement, on l'a trouvé, où est-ce qu'il était. On l'a menotté, ils l'ont anesthésié, quoi. Et puis, ils l'ont drogué, ils l'ont mis dans un avion. Vous savez, c'est le coup tordu de Charles Pasqua, voilà, de la France-Afrique, voilà, quoi. Et puis, on l'a mener, et puis ça, pour faire mousser, pour gagner des élections, voilà, c'est... quand parce qu'il vient, on va terroriser les terroristes, hein. C'est à cette époque-là, quoi.
Tout à l'heure, tu disais c'est De Gaulle qui nous a amenés jusque-là. Justement, c'est un peu ce qu'on voit dans le spectacle de théâtre de Nicolas Lambert, où derrière son pupitre en baril, il y a trois photos de chefs d'État français. De Gaulle, Mitterrand, Chirac. Mmh. Maintenant, Sarkozy avait promis une rupture. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je n'y crois rien du tout. Celui-là, mais c'est un bonimenteur. Il y a le ministre de la coopération, Bockel. Il disait qu'il faut tourner la page et que le président dit qu'il faut tourner la page et qu'il ne faut pas que les Africains viennent trop demander de l'argent. Alors franchement, pour dire ça à quelqu'un comme moi, Bongo, qui a tellement donné à la France-Afrique et qui a alimenté leur caisse noire, la caisse noire de l'UNP, de tous ces gens-là, dit ça, mais vraiment, il y a de quoi à énerver le dictateur de Libreville, quoi. Alors, ce qui fait que de temps en temps, il pousse un coup de colère comme ça. Et en même temps aussi, c'est aussi un coup de c'est une pression aussi, quoi. Pour penser que si vous me lâchez, ben moi je vais chercher ailleurs ou alors...
Omar Bongo, c'était une des premières personnes que Sarkozy a appelées le soir de son élection.
Ah ben bien sûr, mais Omar Bongo, mais c'est un ami personnel de Sarkozy, mais quand Sarkozy n'était rien. Mais ils sont des vrais amis, ils ne sont pas des amis politiques. C'est ça le drame de la France-Afrique, c'est cette amitié particulière, spéciale, qui est entre les hommes politiques français et les hommes politiques africains. Chirac, le parrain des enfants de l'autre dictateur, Sassou Nguesso, l'autre, il est parrain de l'autre, il est cousin de l'autre, il est tonton, etc. C'est ça le drame de la politique de la France-Afrique.
Et quelques mois après son élection, Sarkozy a fait un discours à Dakar devant des étudiants, discours très remarqué, très critiqué. Mmh. Ce discours se voulait être une rupture. Quelle rupture on peut dessiner ?
Mais justement, ils disent une rupture parce qu'on ne peut pas faire un discours et insulter le peuple. Mais un discours, mais quand tu insultes le peuple, que c'est des peuples attardés, que la lumière n'a jamais jailli sur eux pour pouvoir clair, que oui, mais ce qu'eux nous ont apporté, ils nous ont apporté seulement leur côté de contact avec la nature, etc. C'est pas une dictature. Ça, on ne peut pas tenir un discours dans aucun pays sur cette planète.
Mais justement, est-ce que la rupture, c'est pas qu'on en revient même au discours de l'époque coloniale?
Nous, ce que nous voulons, la rupture, pour nous, c'est quoi la rupture? C'est tout simplement de soutenir les dictateurs. Mais tout simplement, sortir de la zone CFA, que les pays africains puissent avoir leur monnaie, fermer les bases militaires. C'est la rupture. La rupture, ce n'est pas parce qu'on s'en va là-bas, on insulte ces peuples-là. On est arrivé à la théorie de Gobineau, quoi. Cette vision du 19e siècle, très colonialiste, très méprisant.
C'était Emmanuel Semanou de l'association Survie. Sont aussi intervenus dans cette émission sur la France-Afrique Nicolas Burlot de Primitivi et Camille de Vitry, réalisatrice entre autres du documentaire accablant Le Prix de l'Or. Un film que vous pouvez vous procurer directement auprès d'elle en lui envoyant un mail à camille@free.fr ou auprès de Survie.